Oui, bah écoutez, puisque Eric me demande de me présenter, bah, ce sera très, très rapide. Hein. J'ai une formation de philosophie. J'ai été pendant 16 ans professeur de philo dans le secondaire, dont 10 ans au lycée Bellevue, ici à Toulouse. Et déjà, mais aux dernières années, bien sûr, où j'enseignais, j'avais commencé à travailler dans une autre discipline qui est l'anthropologie sociale. Et ça m'a permis donc ensuite de devenir enseignant, non pas à l'université, mais à l'école des hautes études en sciences sociales, enfin, qui est une forme d'université aussi. Et ben, ça a duré 17 ans, je crois, et puis là, j'ai été atteint par l'âge de la retraite, si tant est qu'on ne le soit jamais, quand on a ce type de profession d'enseignant-chercheur. Alors, je suis philosophe de formation. J'ai eu cette deuxième période de mon activité intellectuelle. Le thème, à vrai dire, de cette soirée est d'abord un thème d'historien. Alors là, je ne suis pas vraiment un historien, mais j'ai fait la plupart de mes travaux qui sont consacrés aux religieux en général et plus précisément au christianisme latin, disons, depuis le XIIe siècle jusqu'au XIXe. En gros, je n'ai pas tellement débordé sur l'actualité. Donc cela m'a conduit à développer une recherche qu'on peut appeler anthropologie historique. Alors s'il y a parmi vous des historiens, ils seront peut-être un peu déroutés par la façon dont je prends les problèmes, parce que justement j'essaie de les prendre non pas un historien en cherchant des logiques de variations dans le temps, de choses comme ça, mais j'essaie plutôt de trouver un certain nombre de grandes déterminations anthropologiques qui font que... Je ne sais pas, par exemple, la question de la croyance religieuse ou au contraire celle de l'incroyance peuvent être pensées aussi par rapport à des données, disons, qu'on peut rattacher pour partie à la psychologie cognitive ou pour partie aussi à une histoire plus large et plus anthropologique du phénomène religieux. Alors, bien entendu, le thème annoncé de cette présentation fait immédiatement écho au grand débat des historiens autour de la possibilité donc de l'incroyance ou de l'athéisme au Moyen-Âge ou au début de la période moderne. Et ce débat a pris toute son ampleur donc avec la publication en 1942 du livre de Lucien Febvre, Le problème de l'incroyance au XVIe siècle, La religion de Rabelais. Donc les controverses continuent. Vous trouverez dans le dernier titre de ma très brève bibliographie est celui d'une revue qui a consacré en 2013 un numéro entier à la question de l'incroyance religieuse avec un article qui fait le point justement sur les polémiques autour du livre de Lucien Febvre. Alors la thèse qu'il défend donc c'est celle de l'impossibilité d'une incroyance. Donc au XVIe siècle. Et son principal argument est que ce qui rend une expression ordonnée de l'incroyance impossible, eh bien, c'est tout simplement ce qu'il appelle la question de l'outillage mental de cette époque. Outillage mental qui, à vrai dire, lorsqu'on lit l'ouvrage, se ramène pour l'essentiel à la question de la langue. C'est-à-dire que pour lui, les hommes du XVIe siècle ne disposent pas du langage conceptuel qui leur permettrait de développer une position non théiste ou non religieuse du fait justement de cette limite en somme qui est apportée par en particulier donc les langues et y compris la langue savante dont ils disposent. Alors cette théorie du langage, en définitive, est aujourd'hui très discutée, hein, puisqu'elle correspond un petit peu à l'idée que c'est le langage qui trace, en somme, les grandes lignes de notre représentation du monde. Ça a été en particulier développé par deux linguistes et anthropologues américains qui sont Whorf et Sapir dans les années 30. Et aujourd'hui, en particulier, tous les psychologues cognitivistes ont une conception du langage qui, justement, récuse totalement cette espèce de langage prison, si vous voulez, qui pouvait apparaître comme un effet de du principe de Worf-Sapir ou Sapir-Whorf, comme vous voudrez. Alors, en fait, et Lucien Febvre en a parfaitement conscience, on trouve au XVIe siècle des accusations d'athéisme. C'est-à-dire que quelqu'un comme Calvin, par exemple, accuse un certain nombre de ses contemporains de développer des positions athées. Un des grands athées, ou réputé tel de l'époque, étant Étienne Dolet, qui a été exécuté, pendu, avant que son corps soit brûlé, pour justement ses positions impies. Mais ce que signale aussi Lucien Febvre, c'est que l'accusation d'athéisme au XVIe siècle n'est pas quelque chose de très technique. C'est ce que Bourdieu appelle une insulte classificatoire. C'est-à-dire que vous vous retrouvez taxé d'athéisme dès lors que vous êtes mécréant ou dès lors tout simplement que vous appartenez à une confession qui n'est pas celle de la personne qui parle. Et ainsi, on trouve beaucoup d'accusations réciproques d'athéisme entre catholiques et protestants, par exemple, qui sont par ailleurs des personnes qui sont tout à fait des esprits religieux. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de la critique du livre de Lucien Febvre. Ça, vous en trouverez, si vous voulez aller là, sur le site de la revue Théorème, là, vous verrez, il y a un très bon article qui fait une synthèse, justement, de ces prises de position. Il y a quand même une chose, puisque nous sommes dans un lieu où on parle de philosophie qui peut être surprenante, c'est que Lucien Febvre accorde très peu de place, finalement, en particulier aux références à la philosophie antique. Alors qu'on sait que dans l'Antiquité, bon, les épicuriens sont assurément irreligieux. Il suffit de lire les pages de Lucrèce sur les méfaits de la religion, et un de ses méfaits principaux étant, selon lui d'ailleurs, d'inquiéter les personnes en raison de l'hypothèse de la survie. C'est tout à fait le contraire de ce qu'on dit d'habitude. On dit la religion, ça sert à rassurer. Lucrèce, quant à lui, disait strictement le contraire. Bon, il y a aussi des auteurs extrêmement irrévérencieux, comme Lucien, par exemple. Ses dialogues des dieux sont très évidemment, sinon athées, du moins très largement ironiques quant au culte gréco-latin. Il y a aussi les sceptiques, qui ont évidemment introduit un certain nombre de doutes quant à, aux formes, je dirais, déistes de la métaphysique antique. Et donc, Febvre a tendance à passer un petit peu tout cela sous silence, toujours avec son fameux argument donc, de cette difficulté du siècle, en somme, à intégrer véritablement ce type de conceptualité et à la manipuler de façon suffisamment précise et critique. Et donc, les choses auraient pu en rester là, si l'on veut, c'est-à-dire cette idée, bon oui, effectivement, l'incroyance n'est guère possible avant, on va dire, les premiers libertins, peut-être au XVIe, XVIIe siècle, enfin, surtout XVIIe, ensuite la philosophie des Lumières, qui compte d'ailleurs très peu dater, j'y reviendrai. Toujours est-il que ce qui a fait bouger un petit peu cette question historiographique, eh bien, ça a été de s'intéresser non plus à des théologiens ou à des philosophes ou à des personnes, disons, qui étaient dans la culture savante, mais à regarder un petit peu ce qu'il en était des simples gens, tous ceux qui, dans leur représentation religieuse, pouvaient parfois introduire des éléments extrêmement critiques. Alors, de ce point de vue, une source que j'ai beaucoup utilisée, que vous retrouverez très souvent sur mon exemplier, c'est le registre d'inquisition de Jacques Fournier. Donc, vous savez que Jacques Fournier, qui était évêque de Pamiers dans les premières années du XIVe siècle, a été, à vrai dire, le seul évêque qui a usé de son pouvoir d'inquisition, qui n'a pas délégué l'inquisition comme ça se faisait d'habitude aux dominicains, avec un inquisiteur par diocèse, etc. Il a pris en main le processus inquisitorial, et avec bien entendu, comme on est à Pamiers, on est en 1318, lorsque les procès commencent, il y a du cathare dans l'air. Et donc, il n'y a pas que des cathares d'ailleurs, il y a aussi des vaudois, il en attrape un d'ailleurs qui est brûlé, c'est un des rares brûlés de tout ce recueil de procès. Et ce qu'il y a de passionnant, alors je précise que Jacques Fournier s'est passionné véritablement pour l'Inquisition, pour ce travail qui devient une espèce de dialogue avec les prévenus et qui disent des choses tout à fait extraordinaires, terriblement dangereuses pour eux. Mais il y a une espèce de jeu d'égalité qu'il arrive à faire passer, c'est très étrange, dans cette position où pourtant il y a une dissymétrie considérable. Et donc on voit ces paysans de ce qui est aujourd'hui l'Ariège qui font de la théologie avec leur évêque et qui n'hésitent pas donc à manifester leur désaccord avec des points de la doctrine chrétienne ou à faire valoir des croyances qui sont quand même passablement décalées par rapport à la dogmatique de l'Église. Et donc on trouve ces gens qui aussi rapportent, ou des témoins qui rapportent, on était à la maison là, et puis on s'est mis à discuter du jugement dernier. Bon, comme ça, c'est après, à la veillée ou dans la rue, il y a véritablement une espèce de pratique populaire, enfin, ou de pratique en tous les cas largement diffusée, de l'argumentation. Alors bien entendu, le fait qu'on soit dans une zone où chacun sait qu'il y a l'Église d'un côté, mais qu'il y a aussi des cathares, qu'il y a des vaudois, etc. Ça fait que la question du contenu, en somme, de ce qu'il faut croire, est sans doute une question que un certain nombre de gens se posent. On verra qu'ils ont aussi bien d'autres raisons de se les poser. Donc ça a été, pour moi, en tous les cas, un choc de trouver dans ce document une parole populaire. Alors bien entendu, on pourra toujours dire que l'Inquisition produit des filtres, etc. Mais il s'agit de minutes qui ont été prises au cours des procès, avec une traduction latine, mais qui laisse de temps en temps percer quelques mots occitans, par exemple. Et ensuite, alors ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que bon, Jacques Fournier a été un personnage d'une grande envergure intellectuelle, et il est devenu pape d'Avignon. C'est le Benoît XII, pape d'Avignon. Et quand il est parti de Pamiers, donc, il a emporté avec lui ce registre, alors qu'il n'avait pas à le faire, parce qu'il était intéressé. Ce registre a été traduit en latin intégralement, s'il ne l'avait déjà été, et on l'a retrouvé finalement à Rome, puisque je suppose que les archives d'Avignon ont dû finir par rejoindre le Vatican, enfin l'actuel Vatican, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas que là que le pape habitait dans Rome, et on l'a exhumé au XIXe siècle. Et Jean Duvernoy, qui est un juriste à la retraite, a passé 10 ans de sa vie ou plus à le traduire, et il en a donné une... Enfin d'abord à éditer le texte latin, et ensuite à le traduire. Et c'est vraiment une source extraordinaire. Alors pour ceux qui ont lu Montaillou, Village Occitan, d'Emmanuel Leroy Ladurie, eh bien c'est la principale source de Leroy Ladurie. Mais simplement, Leroy Ladurie s'est intéressé au versant cathare. Alors que moi, ce qui m'intéressait, ce n'était pas le versant cathare, c'était plutôt, en somme, la capacité qu'ont des personnes eh bien, de se débrouiller avec l'enseignement religieux qu'on leur donne, à se l'approprier, à le comprendre à leur manière, à le modifier éventuellement, sans forcément d'ailleurs en avoir conscience, c'est-à-dire en fait à faire ce que tout le monde a toujours fait avec la religion, c'est-à-dire que la religion propose des énoncés suffisamment étranges et difficile à croire qu'il y a toujours ce travail d'autoconviction, si l'on veut, que les personnes pratiquent et qui fait qu'on trouve des arguments parfois qui sont un petit peu inattendus, mais qui sont très intéressants pour voir justement comment les choses se passent dans la tête de quelqu'un qui n'est pas un théologien, qui n'est pas un intellectuel, mais qui a la religion catholique, en l'occurrence, dans son environnement intellectuel et pratique, et qui essaie d'en faire quelque chose. Alors voilà donc une première source que je vais largement utiliser. Il y a eu également un second texte publié en 80, alors lui, de Carlo Ginzburg, que vous connaissez peut-être. C'est un des fondateurs de la Microstore. Il y a grand historien italien qui travaille depuis des années d'ailleurs à l'Université de Californie. Un ouvrage qui s'appelle « Le fromage et les verres, l'univers d'un meunier du XVIe siècle ». Et donc, il découvre le meunier Menocchio, c'est-à-dire Dominique, le diminutif local de Dominique, et qui est un personnage qui, alors lui, est une espèce de théologien sauvage, c'est-à-dire qui produit des doctrines très compliquées sur l'origine du monde, sur toutes sortes de sujets, et qui est évidemment assez critique. Alors évidemment, il tombe lui aussi dans le piège de l'Inquisition, et à vrai dire, à l'époque, on cherche des luthériens. Mais très vite, les inquisiteurs s'aperçoivent que non, que ce n'est pas un luthérien. Donc il a un premier procès, d'où il se tire pas trop mal. Puis comme il continue à professer ses hérésies, pour employer le langage indigène de l'Église, eh bien, il se fait ramasser une seconde fois, et là, ça finit, il finit sur un bûcher, un an avant Giordano Bruno, donc on est autour de 1600. Mais le personnage est absolument fascinant, et on retrouve des arguments à la fois pour la version, si je puis dire, de la croyance qu'il défend, mais aussi des arguments qui, en définitive, ont de fortes tonalités irreligieuses, voire, dans certains cas, franchement incroyantes. Alors, le point par lequel je suis entré donc, dans ces questions, ce n'était pas du tout de chercher au départ de l'incroyance ou quelque chose qui pourrait y ressembler. Puisque j'avais entrepris dès ce moment-là un travail sur les dissidences religieuses. Mais dissidence religieuse ne veut pas forcément dire sortie du champ du religieux. Ça peut vouloir dire tout simplement production d'une nouvelle version de ce qui devait, aux yeux de la personne, être la bonne façon de croire. Alors ceci, il faut préciser que une des grandes sources, justement, de cette dissidence religieuse, de ces formes de déviance, c'est, je dirais, une dimension prophétique, c'est-à-dire que très souvent, le dissident est quelqu'un qui se réclame de révélations particulières, et en particulier tout ce qu'on peut appeler les hérésiarques, tous ceux qui ont été à la tête de mouvements dissidents au Moyen-Âge, se présentaient en somme comme des prophètes, comme des personnes qui avaient reçu une lumière divine et qui s'appuyaient sur cette lumière divine pour critiquer les pratiques du catholicisme et pour proposer donc autre chose. Alors il faut dire aussi que dans les hérésies médiévales, il est certes question de théologie, mais il est aussi beaucoup question, si l'on veut, d'ecclésiologie, c'est-à-dire de savoir quelles sont les bonnes manières d'organiser les cultes, qui doit avoir du pouvoir. Et il y a très facilement, dans le discours médiéval dissident, eh bien, une critique tout simplement de l'Église, avec un degré, disons, d'anticléricalisme plus ou moins élevé. Et de ce point de vue, bon, beaucoup de ces hérétiques savants, parce que ce sont presque toujours des prêtres défroqués ou des personnes qui ont eu un enseignement religieux d'anciens moines, c'est pas des paysans, là, pour le coup, qui ont ce type de discours. Ils ont bien entendu accès, même si c'est de façon très partielle, aux textes bibliques, enfin aux textes des évangiles, puisque c'est ça ce qui est essentiel pour ce type de dissidence. Et ils ont un modèle qui leur sert considérablement à la critiquer, qui est le modèle de l'Église primitive. Donc il y a une idée de l'Église primitive, égalitaire, pauvre, ainsi de suite. Et je dirais qu'il y a, dans les formes de dissidence, il y a massivement donc ces références, en somme, internes au champ du christianisme, et on pourrait dire des techniques intellectuelles qui correspondent justement à la manière dont un théologien catholique argumente. Et alors quand on lit le registre d'inquisition, par exemple, de Jacques Fournier, on s'aperçoit que une des seules personnes qui est dans cette culture, c'est un diacre vaudois qui cite la Bible. par exemple, qui renvoie à des citations. Et ça, c'est la technique même de la controverse théologique. Alors que moi, ce qui m'a intéressé, eh bien, ça a été justement de voir qu'il y a des gens qui n'avaient pas ces instruments, qui ne connaissaient pas cette technicité, en somme, de l'espace de la controverse théologique, et qui néanmoins avaient des moyens de prendre la parole. Alors j'ai introduit un concept un peu trop synthétique, un peu trop vague, qui était de dire, eh bien, ces gens, ils avaient du bon sens. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de compétences qui sont celles de tous, qui font qu'un paysan du Moyen-Âge comme nous, eh bien, nous savons à peu près nous débrouiller par rapport au monde qui nous entoure. Nous avons aussi des capacités d'évaluer la capacité des autres à nous dire la vérité ou à nous tromper, etc. Tout cela, donc tout ce savoir commun, si vous voulez, eh bien, il peut servir pour introduire des critiques religieuses. Donc voilà en gros la thèse que j'ai défendue, et vous voyez tout de suite aussi comment, justement, on peut, à partir de là, en somme, intégrer un type de discours, enfin prendre en compte un type de discours qui sortira de ce champ clos, en somme, de la controverse théologique et des antagonismes religieux tels qu'ils se posent d'habitude. Alors que font ces gens? Que font ces braves gens, donc, lorsqu'ils sont en débat autour de positions de l'Église qui les gênent un petit peu? Alors, j'ai distingué trois registres, en somme, possibles de la contestation. Bon, le premier, donc, l'hérésie, qui peut être, donc, comme je viens de vous le dire, une simple version différente d'une même conviction de fond, je dirais, religieuse. Alors, il faut peut-être apporter une toute petite nuance, c'est qu'on trouve parfois, dans certains mouvements dont taxés d'hérésie au Moyen-Âge, on trouve des critiques très, très virulentes contre, non pas tant peut-être des dogmes, mais des pratiques cultuelles ou des formes donc de piété qui apparaissent comme irrecevables. C'est-à-dire que, par exemple, dès le 9e siècle, on trouve un évêque, il faudrait que je recherche son nom, mais c'est pas un problème, qui critique le culte des images et qui dit que c'est de l'idolâtrie, etc. Bon, c'est-à-dire que on pourrait dire qu'il y a une tendance rationalisante. Bon, vous avez un autre hérétique que nous connaissons à travers... s'il faut que je retrouve, mais ça n'a pas d'importance, qui, par exemple, dit « on ne peut rien pour les morts », donc pas de culte des morts, qui dit « les églises, ça ne sert à rien parce que Dieu est partout », qui dit « on ne peut baptiser les enfants, c'est ridicule », parce qu'il n'y a que la foi qui sauve, et un bébé de 3 jours n'a pas de compétence à avoir la foi. Donc dire qu'un enfant est sauvé parce qu'il a été baptisé, c'est quelque chose de tout à fait incroyable. Bon, il y a eu aussi au Moyen-Âge des critiques du dogme de la présence réelle, du Christ dans l'hostie, des choses comme ça. C'est-à-dire qu'on a là une interne au discours religieux, on a en somme une fibre rationaliste, de rationalisation des croyances, et qui aboutit pour l'essentiel à des idées qui passent en particulier dans le calvinisme. C'est-à-dire qu'un certain anti-ritualisme, une conception finalement qui relativise considérablement le pouvoir salvateur des sacrements ou des choses comme ça, ça devient une des pistes, en somme, qui vont faire passer la pensée chrétienne dans une forme de religiosité déjà beaucoup plus rationalisée. Alors ça, c'est un premier élément. On va voir qu'il existe aussi dans sa version populaire. Le deuxième, c'est ce que j'ai appelé le bricolage critique. Alors ça, c'est ce qu'on va trouver, justement, et ce que j'ai trouvé dans le recueil, par exemple, d'Inquisition de Jacques Fournier. C'est-à-dire que dans ce cas-là, on voit des gens qui se mettent qui se déclarent en désaccord avec un certain nombre de propositions, avec un argumentaire assez sérieux. Et enfin, donc, irreligion argumentée, c'est-à-dire que c'est toute la question de la critique des cultes. Et la critique des cultes, c'est quelque chose de très important, puisque la dimension du culte entre dans une certaine mesure dans la définition même de la religion, Puisqu'une religion, ce n'est pas simplement un ensemble de croyances relatives au surnaturel, mais c'est aussi un ensemble de techniques pour agir sur le surnaturel ou pour produire en soi un état conforme aux attentes du surnaturel, c'est-à-dire des dispositions au salut. Donc tout ceci veut dire que la question de l'irreligion a quand même une incidence très forte au niveau critique, puisque les énoncés relatifs à la critique du culte des rites réagissent sur l'autorité même de l'Église en tant qu'instrument de salut. Puisque justement, si ce qu'elle propose en fait moyen d'agir sur le surnaturel est considéré comme inopérant ou absurde, eh bien, c'est toute une partie de son autorité auprès des populations qui se trouve largement remise en cause. Alors, les arguments ritualistes, on en trouve dans le dossier de Jacques Fournier. Là, je vous en ai cité un, d'un certain Pierre Sabatier, qui est accusé, donc ça c'est quelqu'un, c'est un témoin, parce qu'il y a des dénonciations toujours. Les gens arrivent devant l'Inquisition parce qu'ils ont été dénoncés par quelqu'un. Et donc quelqu'un a dit que Pierre Sabatier avait dit qu'il vaudrait autant aux gens qui sont dans les affres de l'agonie qu'on leur mette la chandelle bénie dans l'anus plutôt que dans la bouche, comme on le fait présentement. C'est une forme de rituel qui est connue, c'est on garde le cierge de la chandeleur. Actuellement, encore, je pense, dans les familles catholiques, on le met à brûler à côté du cercueil pendant tout le temps que le mort reste à la maison. Là, on le mettait en plus dans la bouche. Bon, donc, vous voyez, de façon assez ironique, il remet en cause une pratique rituelle en tant que pratique de salut, puisque c'est bien de ça qu'il s'agit. Alors, autre exemple, alors, les arguments moraux. Alors ça, c'est beaucoup plus intéressant. C'est-à-dire que les gens entendre de dire par les prêtres que Dieu est infiniment bon, ils disent « Attendez, mais alors un Dieu infiniment bon, qu'est-ce que ça implique ?» Et alors là, ça donne ceci, par exemple. Arnaud Gélis, alors qu'il est un sacristain, lui, donc il est proche de... Enfin, il assiste aux offices, ce qui n'est quand même pas très courant au Moyen-Âge, déjà, puisqu'il est sacristain. Et voilà ce qu'il dit, donc il dialogue avec Jacques Fournier. Alors c'est Jacques Fournier, donc son évêque, toujours, qui prend la parole. « Si vous ne croyez pas que les âmes de certains hommes seront finalement damnées, à quoi bon l'enfer ?» Alors, et Arnaud Gélis, dans l'enfer, il y a les démons. « Depuis que le Christ en a enlevé les âmes des saints, aucune âme d'homme n'est entrée en enfer ni n'y entrera dans l'avenir. Seuls les démons seront tourmentés en enfer, parce que je ne crois pas qu'aucun homme ayant la foi chrétienne et le saint baptême soit damné. Même les juifs et les sarrasins et les hérétiques, pourvu qu'ils implorent la miséricorde de Dieu, Dieu aura pitié d'eux et leur donnera le paradis. » Donc là, c'est assez proche des positions d'Origène, ça, hein, en fait. C'est-à-dire, il n'a jamais lu Origène, c'est clair. Hein. C'est-à-dire qu'il raisonne, il dit, bon voilà, mais un Dieu bon qui veut la mort du pécheur, précisément, et qui veut tourmenter des hommes, c'est pas bon, ça, c'est pas quelqu'un de bon qui fait une chose pareille. Bon, deuxième chose qu'il remet en cause, c'est le principe hors de l'Église, point de salut. Puisqu'il dit que les Sarrasins et les Juifs, s'ils sont de braves gens, eh ben, ils seront sauvés aussi. Alors ça, on le retrouve chez Ménocchio, aussi au XVIe siècle, cette idée donc que tous les gens de bien, finalement, seront sauvés, puisqu'à vrai dire, ça ramène la question du salut à une position morale, et non pas simplement pas une position de piété, je dirais. Il y a aussi une thèse qu'on trouve dans Ménocchio, c'est l'idée, c'est à partir d'un thème qui est dans Boccace sur trois anneaux dont je ne sais plus pourquoi, on ne sait plus lequel est authentique et les autres ne le sont pas, et on compare les trois religions du livre à cela en disant on ne sait pas quelle est la bonne. C'est-à-dire il y en a peut-être une seule de bonne ou peut-être les autres, on ne sait pas. Donc c'est aussi du point de vue. Vous savez que l'idée hors de l'Église, point de salut, il a fallu attendre le XXe siècle pour qu'on commence à en sortir du côté de l'Église de Rome. Et on n'en est pas entièrement sorti. Donc, tout ça, c'est quand même des accusations très importantes. Alors, je continue, parce que ça, c'est très intéressant. Question de Jacques Fournier. Qui vous a appris cela ? Je l'ai entendu dans les prêches. Alors ça, bon, c'est totalement invraisemblable. Et c'est là l'important, et je le crois de moi-même à cause de la grande miséricorde de Dieu. Donc, vous voyez, sa critique, finalement, de la damnation, elle repose simplement sur une inférence à partir de l'idée qu'un Dieu bon ne peut pas faire ça. Et donc ça, quand je parlais de bon sens, c'est ça aussi, c'est une façon d'utiliser son jugement, son raisonnement, pour en tirer des choses qui sont peut-être un peu gênantes pour l'institution, mais qui, ma foi, sont extrêmement raisonnables. Alors, il y a aussi un... Enfin, je ne vais pas rentrer parce que ce serait trop long de prendre d'autres exemples. Autre exemple, donc, Menocchio, qui, lui, alors, critique le principe de la rédemption, c'est-à-dire comment peut-on être sauvé par quelqu'un qui souffre à la place du pécheur, ce qui est le cas du Christ, évidemment, et il oppose à cela un principe de droit qui a quand même une portée très générale, si quelqu'un a péché, c'est lui qui doit faire pénitence. Donc, exit le dogme de la rédemption. Vous voyez comment, des toutes petites choses comme ça, là, il s'agit là d'appliquer un principe général de la justice, mais quand vous le mettez en face de la thèse de la rédemption, ben, ça fait des étincelles. Il y a quelque chose qui ne passe pas, quoi. Et ça, je crois que c'est très intéressant de voir cette capacité, donc, d'être un homme de bon sens, d'être quelqu'un qui fait marcher sa tête et qui précise bien que c'est lui. Alors, qui vous l'a appris ? Ça, c'est la question typique de l'inquisiteur. Parce que pour un inquisiteur, derrière tout hérétique, il y a un hérésiarque. Il y a celui qui a apporté les mauvaises pensées, les mauvaises idées. Et il faut bien dire que les historiens ont souvent raisonné de la même manière. Donc ce qu'il y a de très intéressant à partir de dossiers comme ça, c'est qu'on voit que l'hérésie, ce n'est pas quelque chose qui est simplement du côté de la transmission d'une autre version de la religion, mais c'est aussi quelque chose qui se fabrique, en somme, à partir des croyances des gens. Alors le plus beau dissident de tout le recueil de Jacques Fournier, c'est un certain Raymond Delaire, dit Bourg, je ne sais pas pourquoi on l'appelle Bourg, et qui est de Tignac, dans l'Ariège, le village existe encore. Alors lui, il y va assez fort aussi, puisqu'il explique que l'incarnation, c'est-à-dire le fait que Jésus a été fait fouten et coarden, ce qu'on peut traduire par en foutant et en donnant de la queue. C'est-à-dire que la Vierge, elle n'est pas Vierge. Bon, ça embête tout le monde. En plus qu'elle le reste, il y a plein de remarques là-dessus. Il y a tant d'hommes qui sont nés, aucun n'est né d'une Vierge, dit Menocchio, par exemple, etc. Donc ça passe mal. Ça, le dogme de la virginité permanente de Marie, ça passe pas trop. Donc ça passe pas auprès de ce Raymond. Mais, et en plus, il y a un témoin qui dit, et en se disant, il frappait d'une main sur l'autre. C'est-à-dire qu'il fait vraiment le geste du coït pour que tout le monde comprenne bien. Et alors, en plus de cela, alors, à quoi il ne croit pas. Alors, d'abord, il développe l'immoralisme total. L'âme n'est rien d'autre que le sang, Dieu n'est rien d'autre que le divers matériel, et voilà ce qu'il en conclut. Je crus aussi de ce fait que l'âme humaine, après la mort du corps, n'a ni bien ni mal, et qu'il n'y a ni enfer dans l'autre monde, ni paradis pour récompenser ou punir les âmes humaines. Et donc, comme il pense que les raisons que l'on a d'agir bien ou mal, c'est essentiellement le salut, il dit « Du fait de cette croyance, je crus que je ne pécherais pas, quoi que je fisse, de même que l'animal ne pêche pas, et que je ne tirerais du mérite d'aucune bonne œuvre. » Vous voyez, c'est quelque chose de très fort. C'est vraiment une remise en cause totale du dualisme âme-corps, puisque là, tout est matériel dans cette affaire, et d'autre part, de l'idée que, en somme, il y a un jugement selon des critères de vertu ou de moralité. Puisque pour lui, dès lors que la comparaison avec l'animal est très frappante, c'est l'innocence. Si vous voulez. Tout homme est innocent dans son principe, puisqu'il il agit comme... il ne pêche jamais. Il ne pêche jamais. Alors cette histoire d'âme sang, là aussi, elle donne lieu parfois, pas chez lui, mais une certaine Guillemette, elle alors, a carrément fait des sciences expérimentales en matière de théologie. Alors, Jacques Fournier lui demande donc « Pourquoi croyez-vous que l'âme humaine n'étant que sang du vivant de l'homme et qu'elle mourait avec le corps ?» Elle répond « Je le croyais premièrement parce que je voyais que quand tout le sang est sorti d'un être vivant, il meurt. Je le croyais deuxièmement parce que je ne voyais rien sortir du corps des hommes qui mouraient, si ce n'est du vent. » Alors, sur le premier point, elle prend l'exemple d'une oie décapitée qui bouge tant qu'elle a du sang et puis qui tombe. Et elle dit aussi que un jour qu'un bébé, je crois, était mourant, elle a bien regardé ce qui sortait de sa bouche, elle n'a pas vu l'âme. Donc elle en conclut qu'il n'y a pas donc de principe spirituel indépendant et que il n'y a rien dans la... Fait que le principe de la vie, c'est le sang. Alors c'est ce qui est écrit dans la Genèse, hein, mais enfin c'est dans un autre contexte et je pense qu'on pourrait le... Je ne suis pas du tout sûr d'ailleurs qu'il connaissait ce texte. Alors voilà donc quelques exemples de ces raisonnements, si vous voulez, qui sont opposés aux thèses religieuses et qui constituent en somme une espèce de ce que j'ai appelé donc le bricolage critique, hein, puisque bien entendu, lorsqu'on trouve ce type de texte, on ne peut pas affirmer que les personnes ne croyaient pas en Dieu ou rejetaient toutes les formes de ritualité, et ainsi de suite. Mais simplement, on s'aperçoit qu'il y a quand même des capacités critiques fortes et qui vont assez loin. Alors maintenant, la question qu'on peut se poser, en somme, c'est est-ce que la critique qui peut être faite et qui pourrait conduire à l'incroyance, donc, est-ce que la critique, dans le cas de la religion, est différente de ce qu'elle pourrait être dans d'autres exemples de croyances controversées ou de débats autour de la vérité de tel ou tel énoncé, etc. Alors je pense que la réponse est oui. Alors de ce point de vue, enfin, je reprendrai la distinction kantienne entre savoir et croyance. C'est-à-dire que il peut y avoir savoir lorsque l'objet qui nous occupe et que nous voulons connaître appartient à notre expérience. Dès lors qu'un objet n'appartient pas directement à notre expérience, on n'a aucun moyen de dire qu'on le sait, qu'on sait véritablement ce qu'il est. On ne le connaît pas, on croit à son existence ou à telle propriété qui serait la sienne, etc. Et ça, le Moyen-Âge en est très conscient, du reste. La croyance, c'est une forme, en somme, incomplète de savoir. Et dès lors que justement il y a cette espèce d'incomplétude du fait que la plupart des objets auxquels on croit ne peuvent pas être soumis à des expériences directes. Bon, Guillemette, elle est bien gentille, mais enfin, son expérience de regarder si quelque chose sort de la bouche d'un mourant, c'est pas très efficace comme système de preuve. Et donc, le problème, c'est que non seulement il y a des choses qui, dans la religion, dans toutes les religions, là c'est le catholicisme n'est pas un cas particulier, dans toutes les religions, il y a ce que les psychologues cognitivistes appellent des énoncés contre-intuitifs, c'est-à-dire des énoncés relatifs à des êtres, à des entités, qui sont en total décalage avec l'expérience que nous avons de ce qui se passe dans le monde. Par exemple, un exemple de Pascal Boyer, en Afrique, on dit que la sorcellerie est due au fait que les sorciers possèdent un organe particulier qui, de temps en temps, s'échappe de leur corps et va blesser le corps de celui qui subira donc la sorcellerie. Bon, un organe qui se balade, on n'en voit pas trop quand même dans le monde biologique habituel. Bon, de même, un être en trois personnes, une mère qui reste vierge, bon, tout cela, ça fait beaucoup d'éléments qui heurtent très directement le sens commun, précisément. Alors, première question, à partir de là, pourquoi de tels énoncés? Pourquoi faut-il que toutes les religions aient des mystères et des propositions qui heurtent la rationalité? Eh bien, c'est que tout simplement, la construction même de notre monde passe par l'affirmation de ce type de différence par rapport à notre monde. Si tout ce que nous savons du ciel, si je puis dire, se passait exactement comme sur la Terre, ben ça voudrait dire qu'il n'y a pas de ciel, qu'il y aurait tout simplement un monde qui serait homogène et dans lequel les propositions relatives à des entités surnaturelles ne trouveraient aucune place. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'est-ce qu'il en résulte du point de vue de la crédibilité de ce type d'énoncé? Eh bien, on pourrait dire que ce que nous demande l'Église lorsqu'elle nous demande de croire aux trois mystères, incarnation, rédemption, je ne sais plus quel troisième, ça me reviendra. Bon, tout cela, à chaque fois, et la Trinité, pardon, j'ai oublié la Trinité, une personne en trois, bon, ce n'est pas très clair, ça heurte un petit peu le principe d'identité. Face à ce type de croyance, on vous dit, voilà, c'est incroyable, mais c'est vrai. La question qui se pose immédiatement, c'est la question qui le dit? Qui le sait? Et de fait, tout le système dogmatique d'une religion repose sur ce qu'on peut appeler des arguments d'autorité. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont supposées savoir, qui sont alors, pour les origines, supposées avoir acquis des savoirs qui dépassent les compétences cognitives normales des hommes, c'est le cas par exemple des prophètes, qui ont eu donc accès à des vérités qui n'auraient pas été accessibles à de simples mortels. Et ensuite, il y a donc l'idée de la tradition et le relais jusqu'à l'autorité locale, le prêtre qui va vous dire ce que vous devez croire, ou la façon dont vous devez interpréter tel passage d'une prière, etc. Alors, le principe d'autorité n'est pas un très bon principe du côté de la connaissance scientifique ou d'autres formes de transmission de savoir, puisque, évidemment, il est complètement extérieur à la rationalité du discours. C'est une façon d'imposer de l'extérieur une autorité à un discours, indépendamment de sa crédibilité, indépendamment de sa vraisemblance, etc. Le problème, c'est que si je reviens toujours à mon registre d'inquisition, eh bien, les paysans de l'actuel Ariège, ils ne rencontrent pas simplement des propositions religieuses, même si ça les intéresse, je vous l'ai dit, ils rencontrent des curés, ils rencontrent une institution ecclésiastique. Et les médiateurs donc, de ces vérités incroyables qu'on leur demande de croire, ce sont ces personnes-là. Alors la question c'est, sont-ils dignes de confiance? Et très souvent, ce qui se passe, eh bien c'est le cas l'exemple ariégeois, eh bien c'est que, en fait, on n'a pas du tout envie de croire le curé. On n'a pas du tout envie, parce qu'on s'y considère que c'est un pêcheur. Bon, vous savez, le curé de Montaillou qui couchait dans l'église avec une de ses ouailles, bon, tout ça, ce n'était pas un modèle de vertu, et ça se savait dans le village. Bon, alors après, il peut toujours vous dire qu'il faut croire au dogme de la Trinité. On va dire, ouais, d'accord, bon. Et surtout, il y avait un autre point très important, c'est que l'église médiévale, ce n'est pas simplement une institution qui transmet des propositions religieuses. C'est aussi une puissance économique, c'est une puissance politique, etc. Et donc, inévitablement, elle peut entrer en conflit d'économie, conflit économique, par exemple, avec les personnes. Et c'est ce qui s'était produit en Ariège, au début du XIIIe siècle, au début du XIVe ou à la fin du XIIIe, je ne me souviens plus, c'est que l'Église avait réintroduit ce qu'on appelle les carnelages, c'est-à-dire que, dans un pays où il y avait peu de blé, parce que la dîme, de façon générale, portait sur les fruits de la terre, en particulier le blé. Mais là, il n'y a pas beaucoup de blé. Alors, l'Église avait trouvé un truc très bien, c'était de dire, comme c'est un pays d'élevage, eh bien, on doit à l'Église un agneau sur 10. Et les gens, ils n'étaient pas contents du tout. Si vous voulez, on pourrait dire que le fond, en somme, de la révolte, d'une certaine manière, c'est pas la logique qui est porteuse seulement, même si elle est présente aussi, au moins à titre d'argument, mais c'est aussi qu'il y a un anticléricalisme assez, assez virulent qui fait qu'on n'a plus envie de croire le prêtre. Et alors, ce qu'il y a d'intéressant, et ça touche un petit peu ce que vous allez discuter demain, qui est la question du soupçon, si vous voulez. C'est que l'argument d'autorité, c'est l'argument de type, si c'est lui qui le dit, c'est sans doute vrai. Mais il a son pendant qui va dans un sens exactement opposé, qui est le principe du soupçon, qui est de dire, si celui qui le dit, c'est sûrement faux. Et ça, c'est quelque chose qui peut évidemment produire des effets extrêmement fâcheux, comme cette espèce de suspicion universelle qui est la théorie du complot ou des choses comme ça. Mais c'est un argument qui est on ne peut plus banal, y compris dans la vie commune. Quand vous évaluez ce que vous dit une personne, d'abord, qu'est-ce que nous avons véritablement expérimenté comme connaissance scientifique ? Extrêmement peu. Donc ça veut dire qu'il faut que nous fassions confiance aux médiateurs, à ceux qui vont la transmettre. Et si par cas, justement, on a des raisons de ne plus faire confiance, eh bien, c'est exactement la position symétrique qui se produit. C'est-à-dire qu'on va récuser en bloc, ou en bloc de plus en plus gros, les connaissances qui sont donc, par nécessité pour la plupart d'entre elles, transmises par des médiateurs. Simplement qu'elles soient transmises par des médiateurs, pour des savoirs, au moins des savoirs communs, ça veut dire que dans la plupart des cas aussi, quand même, on a des moyens personnels de les tester jusqu'à un certain point. C'est-à-dire, si vous faites confiance à votre médecin, ce n'est pas pour la vérité qu'il va vous dire sur quelle est votre maladie, mais c'est aussi parce qu'il va vous guérir. Et enfin, dans un nombre de cas, heureusement, suffisant. Donc, tout cela pour dire que la singularité même des savoirs religieux, en somme, peut être considérée comme une espèce de faiblesse. Puisqu'il y a cette espèce d'incomplétude de la position de croyance, il y a le fait qu'on repose sur des témoignages très anciens, il y a le fait qu'il y a toutes ces propositions contre-intuitives, ma foi, qui sont plus ou moins faciles à admettre. Et donc tout cela nous permet de penser qu'il y a une sorte de vulnérabilité, en somme, des savoirs religieux. Et cette vulnérabilité, eh bien, on peut la voir attaquée de front, peut-être par des philosophies clairement matérialistes, par exemple, mais on peut la voir aussi attaquée, en somme, dans une espèce de guerre d'escarmouche, si vous voulez, qui est un petit peu ce que nous décrit le registre d'inquisition. C'est-à-dire qu'on va critiquer telle petite chose sans forcément faire le lien avec tout le reste, etc. Mais tout cela, en fait, introduit quand même, je crois, la vision d'un monde culturel, je dirais, qui est quand même assez différente de ce qu'on se représente d'habitude. Et c'est là où je voulais revenir à Lucien Febvre. C'est que Lucien Febvre, bon, il y a cet argument du langage prison, mais il y a aussi quelque chose dont il a été un des promoteurs, directement ou indirectement, du côté des historiens, qui est la notion de mentalité. Vous savez que Lucien Febvre, c'est le cofondateur de l'École des Annales, enfin, de la revue Les Annales, en 1929. C'est-à-dire de tout ce renouveau historique qui a fait que, au lieu de s'intéresser à l'histoire des rois et à la seule histoire politique, on s'est tourné vers la vie quotidienne des personnes, l'économie, tout ce qui était histoire des peuples et non pas histoire de leurs dirigeants. Et donc, Febvre, qui connaît aussi les sciences humaines de son temps, qui a dû lire de l'anthropologie, il a dû lire du Mauss, des choses comme ça, eh bien, il utilise, sinon la notion de catégorie, au moins la notion de culture. C'est-à-dire avec cette idée que les hommes du XVIe siècle, ils vivent dans un univers qui n'est pas tout à fait le nôtre. Pas simplement parce qu'il manque de voitures, etc., mais parce que leur représentation même n'obéissent pas aux mêmes logiques. Alors ça, c'est un argument très courant et qui permet de comprendre aussi que les historiens, les bons historiens, sont très soucieux d'éviter l'anachronisme. C'est-à-dire la religion de Rabelais, puisque c'est le sous-titre de Febvre, on n'y comprendra jamais rien si on dit Rabelais, c'est moi. Si on dit il avait la tête faite exactement comme la mienne, et donc, c'est au moins ce que pense Febvre, qu'il faut se mettre, en somme, dans l'espace culturel du Moyen-Âge. Alors, ce qui vaut pour l'ordre du temps vaut aussi dans l'ordre de l'espace, si on veut, avec la démarche ethnologique. C'est-à-dire qu'en ethnologie, on est très sensible aux différences des cultures. C'est-à-dire à se dire, bon voilà, un Givaro amazonien, il ne va pas avoir les mêmes valeurs exactement, ou même pas du tout que les nôtres. Il va considérer qu'il est très louable de chasser des têtes ou des choses comme ça. Il va avoir des représentations de ce que doit être les rôles familiaux qui ne seront pas tout à fait les nôtres, etc. etc. Donc c'est toute l'idée de culture. Et le problème de l'idée de culture, qu'on l'applique au temps, enfin l'histoire, donc, ou qu'on l'applique dans une logique contemporaine d'ethnologie, eh bien, c'est qu'il a souvent été pensé de façon trop monolithique. C'est-à-dire qu'on a très souvent pensé une société a sa culture. Et cette culture, elle est, en règle générale, incommensurable avec les autres. Et tous les membres de cette société auront inévitablement un même stock de représentations culturelles qui leur ont été transmises et qu'ils considéreront comme des normes aussi par rapport au comportement ou par rapport au religieux et tout ce qu'on voudra. Donc, autant l'idée de Febvre, donc de dire après tout, on peut très bien imaginer des cultures dans le passé où on ne pouvait pas ne pas croire en Dieu, on peut faire le même raisonnement aujourd'hui. C'est-à-dire, existe-t-il aujourd'hui dans le monde des espaces culturels ou religieux dans lesquels on ne peut pas ne pas croire en Dieu? Ça, c'est une question, je crois, qui est tout à fait d'actualité et qui est souvent posée à propos de l'islam. C'est-à-dire qu'on entend très souvent dire que dans un pays musulman, il n'y a pas d'athée, parce qu'il y a une espèce d'évidence de l'existence de Dieu, qui fait que... enfin, moi, j'ai eu cette expérience en discutant avec, j'étais à Jérusalem, et je n'avais pas beaucoup discuté avec un Palestinien vivant en Israël, et je ne sais pas comment on en était arrivé à dire que... Je lui avais dit, moi, je suis ici, je suis à Jérusalem, mais je suis athée. Il m'a dit, scandale total. D'abord, il m'avait dit non, c'est pas vrai, tu n'es pas athée, c'est pas possible que tu sois athée. Et ça, bon, c'est des expériences qu'il faut comprendre, je sais, mais je pense quand même qu'en tout état de cause, déclarer de façon abrupte que dans une situation donnée, tout le monde croit, on ne voit qu'une seule tête, si je puis dire, je crois que c'est toujours une erreur et qu'il y a toujours de la marge et qu'en plus, croire, ce n'est jamais être dans une orthodoxie, c'est toujours bricoler, c'est toujours se refaire son système de croyance. Alors bien sûr, il ne faut pas oublier les contextes sociaux. C'est qu'il peut y avoir des contextes dans lesquels il est extrêmement imprudent ou dangereux de déclarer sa distance par rapport à des propositions religieuses. Mais on ne sait pas ce qui se passe dans le fort intérieur des personnes, qui peuvent avoir aussi une certaine distance. Alors le cas de l'Inquisition est troublant de ce point de vue, parce que l'Inquisition, si vous voulez, met dans l'espace public ou dans l'espace d'une communication, en tous les cas aux autres, des choses qui relèvent de l'intime, qui relèvent du privé. Bon, le gars qui se fait dénoncer parce qu'en rigolant, il a fait une plaisanterie sur les bougies qu'on utilise pour la mort, bon, il ne s'attendait peut-être pas à se retrouver devant un inquisiteur, c'est clair. Et d'une certaine manière, y compris justement quand les personnes se mettent à argumenter, elles découvrent des choses qui auraient pu rester parfaitement silencieuses et complètement ignorées. Et ça, c'est bien entendu tout le problème méthodologique lorsqu'on travaille sur la religion, c'est que on n'est pas dans les têtes. On ne peut pas savoir exactement ce qui s'y passe. Mais disons qu'on a quand même des moyens de connaître au moins un certain nombre de fonctionnements de ces têtes. Et ces fonctionnements, ils sont les mêmes pour tous, jusqu'à un certain point. Et ça, c'est un des grands lieux, à mon avis, d'intérêt des sciences cognitives actuellement, c'est justement de rétablir, en somme, une strate d'universel dans tout ce qui est détermination des comportements humains ou en particulier des postures de connaissance, enfin, ou des modalités même de construction de la connaissance. Donc si vous voulez, je conclurai là-dessus. Je ne dis pas du tout qu'au Moyen-Âge, il y a eu des athées conséquents, etc. J'en sais rien. Mais la seule chose qui me paraît importante, d'abord, c'est de dire que de l'irreligion, incontestablement, il y en a eu. C'est-à-dire des prises de position raisonnées, explicites, de critique, en somme, de la logique religieuse en tant que logique de salut ou en tant que moyen d'intervenir sur le surnaturel, il y en a incontestablement. Et enfin, il y a donc toute cette espèce de jeu de complémentarité entre d'un côté... Donc ces arguments communs, pas du tout savants, etc., que l'on peut objecter au dogme, et d'autre part, avec bien entendu des nuances dans le temps et dans l'espace, cette méfiance à l'égard du clergé ou cet anticléricalisme qui n'aidait pas, disons, à accepter de façon tout à fait... volontaire et enthousiaste les propositions ou certaines des propositions religieuses. Voilà.